Radio Campus
Paris. Le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts visuels en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Luchère pour parler de son incroyable pièce « Les corps incorruptibles » jusqu'au 15 novembre au Théâtre de la Bastille. En chronique, on vous parlera de « Superstructure » de Hubert Colla et Sonia Cambietro du 6 au 22 novembre au Théâtre des Amandiers, de Le papier peint jaune d'après Charlotte Perkins Gilman du 5 au 15 novembre au Théâtre Montfort, La Luz de un Lago del Conde de Torrefiel du 4 au 16 novembre au Théâtre de l'Odéon et du Festival du Jamais Lu du 24 au 26 octobre au Théâtre Ouvert. Mais commençons par l'édito. Camilla, on t'écoute.
Chacun a ses morts. Mon premier était un petit merle. J'ai une photo de nous deux. Toi sur mes épaules, moi fière d'avoir une bête sauvage comme mes copines. Après les funérailles, pendant une année, j'écris des déclarations d'amitié éternelle. Comme j'ai une photo avec mon cousin, Robbie. Ma préférée est celle où nous sommes déguisés, moi une danseuse de flamenco avec du rouge à lèvres qui coule, et toi en bandit. Nous avons 10 et 15 ans, et 5 ans, et t'es déjà en bandit. T'es mort le 14 juillet, pendant qu'en Bretagne, je m'ai baignée sur une plage insouciante que la mort, arrivée sur des pieds de velure, a soufflé à mes oreilles. Mon cousin préféré, décédé un mois avant ma grand-mère, la mia nonna. T'étais vieille et apparemment c'est normal de mourir. Pour la première fois, je fêterai notre anniversaire commun, sans toi, au bout du téléphone. Les derniers des numéros fixes a fonctionné encore. Je me rappelle de quand tu m'avais raconté ces cauchemars dans lesquels tu avais vu la mort. Tu étais là, dans ces grands lits où je dormais petite et tu l'avais vue. Tu t'étais vue morte devant toi et tu avais eu peur de ces corps immobiles. Mais tu es morte la veille de la rentrée et je n'ai donc pas pu assister à tes funérailles. On le sait bien, la rentrée sacrée. Ça, c'est ma mort à moi. Je n'ose même pas imaginer ce que d'autres morts déchirent en passant. Des morts parmi des millions d'autres pour nous, petites fourmis, pleines d'ibris, au fin fond de l'univers. On l'oublie, la mort, tellement nous sommes occupés à acheter des tonnes d'objets et à bosser jusqu'au dernier souffle. De toute façon, on n'a pas le temps pour les morts, sauf quand on a de la retraite. Donc merci Aurélia Luchère de prendre le temps pour parler de ces sujets. Et de cet instant où notre corps bascule entre l'objet et l'esprit. Je vous remercie d'être là avec nous ce soir. Merci de nous donner tous ces détails que personne ne nous raconte. Merci de nous raconter ce qui faisaient les Grecs avec leur mort. Et c'est de là que je voudrais commencer cette interview. C'est de la Grèce, du théâtre antique, que je voudrais commencer. Mais avant peut-être de commencer l'interview, j'aimerais bien dire quelques mots sur votre pièce. Donc Guy, tu veux faire un petit résumé ?
On va quand même dire comment ça s'appelle.
C'est les corps incorruptibles.
Voilà, donc c'est d'Aurélia Luchère et c'est au Théâtre de la Bastille, donc du 5 au 15 novembre. Donc
Je continue. Donc ça part de notre rapport contemporain à la mort, au dépouille et au rite funéraire. L'enquête que vous avez menée s'appuie sur votre propre vécu et sur une enquête documentaire. La forme mêle du théâtre, de la performance plastique. On voit de l'argile sur scène. Et l'univers glisse dans une atmosphère clinique, froide et aseptisée d'une morgue, d'une chambre froide, vers l'atelier de céramique, le travail de la terre. On voit cette argile non cuite, utilisée comme symbole du corps mort. Et le spectacle questionne les dénis sociaux de la mort, l'écart entre la vie publique et le traitement discret des corps des morts, le rôle des institutions funéraires et hospitalières dans cette gestion invisible. Il interroge donc notre responsabilité, ce que nous faisons des corps des défunts. Et il soulève aussi la question écologique. Sommes-nous obligés de polluer la Terre, même au moment de notre décès ? Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter des choses à ces petits résumés ?
Non, c'est super. Merci beaucoup de m'inviter. Et vous avez commencé à parler de la Grèce antique, qui est un petit peu une bonne partie du projet, puisque j'ai beaucoup travaillé à partir de moulages. Et c'est vrai qu'en Grèce antique, on avait l'habitude de mouler le visage des morts pour conserver les masques et pouvoir les ressortir aux enterrements, pour que les vieux morts viennent accompagner les nouveaux morts vers l'au-delà. Et du coup, il en a un petit peu question dans ce spectacle, en effet.
Effectivement, dans les théâtres grecs, la mort est une affaire commun. On voit des rites funéraires, on voit les lois de la cité qui partent des morts. Et donc, ça produit une catharsis partagée. Et donc, à votre avis, comment, à travers votre pièce, vous réactivez cette fonction publique du théâtre face à la mort ? Je ne sais pas si ma question est claire.
Si, elle est claire. J'essaie en tout cas, avec ce spectacle, de partir d'une relation intime que moi j'ai eue avec, que j'ai avec la mort, qui est vraiment un sujet qui m'a toujours intéressée, que ce soit de faire du tourisme dans les cimetières ou de regarder des cadavres d'animaux sur les routes. Et du coup, j'essaie de partir de cette relation que j'ai avec la mort pour pouvoir rentrer dans ce sujet qui est quand même immense et qui concerne tout le monde. Et du coup, je pense que la catharsis, elle se joue à partir du moment où aussi c'est un événement collectif. Le théâtre, c'est quelque chose qu'on reçoit à plusieurs. Et comme la mort, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup de plaisir à traiter quand elle arrive, puisqu'on est submergé par d'autres émotions et d'autres choses, et ben le fait de pouvoir en parler, de pouvoir l'appréhender à plusieurs dans une salle de spectacle sans avoir forcément de la tristesse, de la colère ou autre chose, c'est peut-être là que s'opère la catharsis dont tu parles.
Et dans le dossier des presses, vous racontez que la pièce naît dans un deuil familial et d'un stage que vous avez fait, dans des pompes funèbres. Qu'est-ce que vous avez découvert des décisifs sur qui s'occupe des morts de notre société ?
Moi, je viens de Genève, j'ai grandi en Suisse, et au moment où j'ai perdu ma grand-mère, qui était vraiment quelqu'un qui m'a élevée en partie, j'ai posé la question de qui s'occupe d'elle, et personne ne savait vraiment quoi me répondre. Et je me dis, mais pourquoi elle n'est pas à la maison ? Et personne n'arrivait à répondre à ces questions. Donc, j'ai assez vite voulu aller regarder ce qui se passait. Et comme j'avais un petit plaisir à regarder tout ce qui était en lien avec la mort, ça ne m'a pas choquée de faire ce stage dans les pompes funèbres et de regarder vraiment de quoi ils retournaient, qui s'occupait des gens, comment ils étaient payés. En fait, j'ai commencé à ouvrir un peu cette porte et à être assez... choquée de certaines choses, notamment des conditions de travail des employés funéraires avec qui je faisais mon stage, qui étaient vraiment des personnes formidables, et de voir aussi le temps qui était imparti pour dire au revoir, qui est extrêmement rapide. Donc après ce stage, moi j'ai lu pas mal de choses, j'ai voulu aller me former, donc j'ai été à Lyon voir la fac qui forme les thanatopracteurs et les thanatopractrices.
C'est fou.
C'était assez drôle, mais je me suis dit peut-être qu'en fait c'est 3 ans d'études, peut-être que c'est un peu jeune pour que je fasse ça, et j'ai quand même tenté d'autres choses, et il se trouve que j'ai été prise à l'école de la Comédie de Saint-Étienne à côté de Lyon, et je me suis dit je m'occuperai des cadavres plus tard.
Qu'est-ce qu'on apprend en 3 ans?
Mais j'ai vu qu'il y a un concours pour rentrer, que seulement les 60% des gens sont en...
Oui, c'est très sélectif.
Oui, mais donc il y a des gens qui font effectivement 3 ans d'études pour aller après...
Pour s'occuper vraiment de faire des soins donc de conservation, de la thanatopraxie. Et après, sinon, pour être conseiller funéraire, c'est vraiment beaucoup moins de temps de formation. C'est juste que les thanatopracteurs et les thanatopractrices ont aussi toute une branche qui est en lien avec la médecine, notamment sur tout le système veineux, etc.
Ah d'accord, donc ils doivent savoir disséquer...
En tout cas, ça, où trouver une artère quand on doit injecter un produit de conservation à base de formol. Voilà, ouais. Donc je suis un peu rentrée dans ce sujet par ces stages aussi pratiques. Et en fait, je me suis rendue compte assez vite que la thanatopraxie me dérangeait aussi en partie.
Les pauvres prennent la voiture, aiment le plastique, ils abîment la nature. Les pauvres sont feignants, fument trop, font leur course à Auchan. Les pauvres sont agressifs, ils font du bruit, leurs gosses sont mal polis. Ils prennent des douches trop longues, ils mettent le chauffage en hiver. Toi tu télétravailles dans ta ville en terre paille. Tu pars en vacances en voilier, tu parraines un bébé chimpanzé. Tu portes des slips en peau de banane, entièrement fabriqués en France. Oui t'as acheté des chaussures en plastique, mais pour que faire acheter un petit arbre planté.
J'aimerais que tu meurs dans ton lombricomposteur. Que les vers te digèrent, que tu retournes à la terre. Il faudrait que tu meurs, que puissent pousser les fleurs.
T'as planté un arbre, hein, tu veux une médaille, hein. Quand ton pauvre utilise une paille, tu en fais tout un foin. Tu préfères boire dans des nouilles. Responsable, éco-transition c'est total. Parfois tu rentres, tu cries, c'est pas Versailles. Ici, t'as pas la lumière à tous les étages. Tu ne vas plus au bar, à Max, tu te laves le cul. Un jour sur deux, tu tires la chasse. Une fois sur trois, ta femme de ménage essuie les plâtres. Ton rêve c'est que les gens respirent l'air pur, qu'ils se reconnectent à la nature. Que tous les gens puissent être heureux, mais ils sont un peu trop nombreux.
J'aimerais que tu meurs dans ton lit.
Donc nous sommes toujours en... Pardon, le premier morceau incroyable que vous venez d'écouter, c'est donc le morceau qui s'appelle « Sauveur du monde » de Les Vulves Assassines. Et nous sommes toujours en compagnie de Aurélie Luchère pour parler de sa pièce « Les corps incorruptibles » jusqu'au 15 novembre au Théâtre de la Bastille.
Moi, j'avais une question pour vous, Aurélia. Donc tout à l'heure, vous parlez des thanatopraxies. Et je voudrais savoir, à partir des quand on a commencé à traiter autant les corps des morts?
Bah en fait, ça remonte quand même assez loin, hein, parce qu'en Égypte, on faisait des embaumements. Et ensuite, en plus, ça dépend à différents endroits dans le monde. Mais comme on l'entend aujourd'hui avec du formol et tout ça, c'est plutôt les années... démocratisé en France, j'ai l'impression que c'est plutôt les années 80. Après, c'est arrivé en Amérique avant. Et au début du siècle aussi, il y a quand même des grands thanatopracteurs qui ne s'appelaient pas comme ça, qui étaient vraiment des embaumeurs. Vraiment, et au 19e siècle, il y avait déjà cette pratique-là, mais ce n'était pas exactement la même chose. Donc la thanatopraxie, comme elle se pratique aujourd'hui, elle prend bien ses sources au 19e. Et le fait qu'il y ait du formol et que ça soit un poil moins nocif que le 19e, c'est vraiment les années 70-80, comme ça.
Parce que moi, ça m'a fait presque penser au sandwich de McDonald's, là, le truc imputrescible. Donc, je n'ai jamais été regardé, parce que je ne me balade pas dans les cimetières. Mais donc, les gens sont imputrescibles?
Ça dépend. Après, ça dépend aussi de la qualité de la terre, si on est dans des caveaux avec du béton ou pas. Et après, le fait de se faire un soin d'embaumement en thanatopraxie n'empêche pas de pourrir.
Ah, D'accord.
Je peux ?
Oui.
Ah bah oui. En fait, le problème, c'est qu'on mange beaucoup de conservateurs. Et en fait, avant, les corps mettaient 20 ans pour se décomposer et maintenant, ils mettent 50. Et c'est extrêmement problématique dans des villes comme Paris où les cimetières sont surpeuplés de morts. Et du coup, voilà, c'est très, très problématique parce que... Voilà, mais vous en parlez dans le spectacle, le moment où il va falloir rassembler, faire une réduction du corps.
En fait, le problème, c'est surtout qu'on n'est plus enterré en pleine terre, qu'on est habillé, qu'il y a du plastique dans les cercueils, qu'il y a des caveaux en béton, qu'en fait, du coup, on ne touche plus vraiment la terre. Donc, les corps se décomposent de fait moins rapidement et moins facilement. Et après, peut-être que les conservateurs ont des effets là-dessus, mais je pense que c'est vraiment surtout le fait qu'on se coupe entièrement du contact de la terre. C'est vraiment catastrophique.
Et à propos du contact avec la terre, vous parlez de la pensée de la philosophe Val Plumwood, qui semble changer son regard à partir du moment où elle a failli se faire manger par un crocodile. Et quoi, donc, l'effet de se voir comme une nourriture peut changer notre regard par rapport à la mort.
Eh bien, elle en parle assez bien et je la trouve assez formidable. C'est une écoféministe australienne qui est décédée maintenant. Et dans son livre L'œil du crocodile, elle raconte assez bien comment on s'est extrait de la chaîne alimentaire. Et quand j'ai lu ce bouquin, moi, ça m'a marquée parce que c'est vraiment des pensées que j'avais. Et je me suis dit, mais personne fait ce lien-là. Et en fait, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, ah, cette femme est géniale. Elle l'a fait bien avant moi. C'est formidable. C'est surtout que ça m'a calmée vachement par rapport à mon rapport à la mort. Parce que je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai peur parce que j'ai pas envie de me faire inhumer et j'ai pas envie de me faire crématiser. J'ai plutôt envie d'être transformée. Il n'y a rien qui se fait comme ça. Et elle parle aussi de ça, qu'en fait, de se remettre dans la chaîne alimentaire, de se faire manger par des petites bactéries, par des champignons, ça nous permettrait de réintégrer cette chaîne qu'on a voulu quitter, puisqu'on veut se faire manger par personne. On est les prédateurs de tout le monde, mais nous n'avons plus de prédateurs. Et il y a aussi une manière plus douce de se transformer, je trouve, et qui moi, m'a calmée parce que je me suis dit, mais en fait, on a aussi la possibilité de faire partie d'un grand tout et pas forcément d'être comme ça, isolé dans un cercueil avec son petit capiton.
Et à votre avis, l'obsession contemporaine à s'extraire de la chaîne alimentaire n'est pas liée au fait qu'on a une sorte de culte de l'individu, donc on doit préserver notre corps à nous parce que nous, on est important comme individu?
Eh bien oui, il y a Edgar Morin qui en a parlé aussi dans L'homme et la mort, et de tout ce rapport à l'individu et de sortir aussi du collectif pour faire plus attention à soi-même. Et ça a carrément un rôle dans tout ça, c'est sûr.
Mais moi, ce que j'aime, c'est cette phrase qui est dite à un moment donné, c'est essayer de voir la terre comme un foyer, donc la terre où on va être mis en terre, et pas comme un exil pour justement accepter la mort. Moi, je trouve cette phrase, elle est super belle, quoi.
Bah, ça, c'est justement notre ami Val Plumwood qui a écrit ça, et je trouve ça extrêmement beau, et surtout, ça raconte plein de choses. Et on se dit vraiment que j'en parle dans le spectacle quand même beaucoup, que le déni de la mort et le déni de la terre sont vraiment liés. Et que le fait qu'on ait peur de pourrir, ça raconte aussi plein de choses sur notre rapport à l'écologie et à notre appartenance à quelque chose de plus grand que juste la chaîne humaine.
Ça m'a fait penser à une pièce de Chiara Guidi qui s'appelle « La terra di lombrichi », c'est la terre des vers des terres, où ça part du rapport à la mort, ça répond à une tragédie, Alcesti, c'est une tragédie grecque, où il y a un homme qui a perdu sa femme, et donc il y a un héros qui va rechercher sa femme dans les enfers. Une tragédie qui n'est pas une tragédie, parce que finalement, il récupère la femme et la ramène à son mari. Mais c'est cette figure de vers des terres, je trouve que c'est hyper important dans tout ça. Et on n'accepte plus de se faire bouffer.
Oh oui. Non, mais j'ai bien aimé aussi, je ne sais pas si c'est dans le spectacle ou si c'est dans ma tête, mais il y a ce truc avec les oiseaux, c'est ça, hein, non, vous en parlez?
Au tout début.
Non, pas au tout début, mais les oiseaux qui mangent les morts,
ouais,
et ensuite ça les emmène au ciel.
Oui, je fais référence quelquefois aux oiseaux, ça commence avec un pigeon écrasé et ça finit par les funérailles célestes.
Voilà.
Il y a un documentaire qui est génial qui s'appelle Le rappel des oiseaux, et où on voit en fait une personne, un corps se faire manger. Et ça raconte, je trouve, enfin moi, il m'a beaucoup marqué ce documentaire, parce que c'est des choses qu'on devrait pas forcément voir en tant que public, mais qu'on devrait voir en tant que famille. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui s'immisce sur un terrain.
Mais donc, c'est la famille. Il y a la famille autour qui regarde le corps.
Et tu sais, tu avais une question par rapport au rire de la pièce.
Bah oui, c'est marrant. Non, mais c'est vrai que la pièce est très très marrante. Enfin, après, j'ai pas vu vos autres travaux, mais vous êtes toujours rigolote ou
Bah, je pense qu'avec un sujet pareil.
Non, mais non, des fois, ça pourrait être. Non. Bah oui, tu confirmes bah, que tu as vu l'autre.
Moi, j'ai vu Vaisseau Famille et qui était magnifique. Famille. C'était hyper drôle. C'était déjà du théâtre documentaire, donc on a déjà ce truc qui récuse un peu l'histoire et la narration. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, c'est une des particularités de votre théâtre. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a Julie Berès qui fait ça, mais c'est pas bien.
Non, mais Thomas.
Il y a Hubert Collat qui fait un truc là-dessus. C'est pas terrible. Là, c'est bien, c'est drôle. On rigole, on apprend plein de choses. Ça nous élève, quoi.
Oui, non, ça.
Moi, j'ai une question, à votre avis. À partir, pourquoi on a accepté, parce qu'il y a quand même tous ces marchés des pompes funèbres qui est complètement un grand scandale. Comment on a accepté que les cadavres deviennent une marchandise?
En même temps qu'on a accepté le système dans lequel on est aujourd'hui, hein, qui est un système capitaliste et qui fonctionne uniquement comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi les corps seraient différents.
On le fait déjà avec les vieux.
On le fait avec les vieux, on le fait avec les enfants, on le fait avec les gens malades. Je pense que... voilà, je vois pas pourquoi ce serait différent.
Et donc c'est un lien un peu avec notre société productiviste, donc on n'a pas vraiment le temps de s'occuper des morts, donc on paye pour quelqu'un le fasse, c'est ça?
Je pense que ça a à voir avec ça, mais il y a aussi, enfin personnellement je suis pas sûre d'avoir envie de m'occuper de mes morts, parce que je suis pas sûre d'être en capacité de le faire, et je serais contente d'avoir quelqu'un qui m'aide. Par contre, là où ça me pose question, c'est quand les gens que j'embauche, qui sont des gens super, font partie d'une société qui elle-même fait partie d'un grand groupe, etc., etc. Là, ça me pose question parce que il y a vraiment un profit qui se fait à cet endroit-là. On travaille pas avec un menuisier qui vient de pas trop loin. On travaille vraiment avec des cercueils qui viennent. Qui viennent d'ailleurs parce qu'ils sont moins chers, et tout est comme ça. Donc en fait, on ne sort pas vraiment d'un système qui moi, me pose question et ne me va pas.
Et est-ce que vous pourriez nous parler, j'ai vu que vous organisez des cafés mortels, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ces concepts?
Oui, alors c'est un concept qui a été inventé par Bernard Créta, qui était le directeur du musée d'ethnographie à Genève, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps et qui venait du Val d'Anniviers, si je ne me trompe pas, donc en Valais, dans un endroit qui est quand même assez sauvage. Et en arrivant en ville, il s'est dit, mais c'est trop bizarre, dans les campagnes, on parle quand même de la mort, et là, en ville, on n'en parle plus. Donc il a proposé de créer des cafés mortels pour parler de la mort dans les lieux publics et de préférence au bistrot. Et il a commencé comme ça, et en fait, au fur et à mesure des années, il y a vraiment les pays francophones ont repris ce concept-là en Belgique, en France, et ça n'a pas arrêté de fructifier. C'est vraiment très très drôle. We'll be right back.
فنجان 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 كيف لي فنجان 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 كيف لي فنجان 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 كيف لي فنجان فنجان كوني وتحات فنجان 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 بني وتحاس فنجان بني وتحاس بني بني بر كيف البر من قبل كيف لمع بارد قيم على كيف لإسمي أصر من آل الحياة سمع قيم على آل الحياة نهى مستنها 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 مستن ك ك بالشؤون بني وتحاسب قررت المنكوبة نفسي إبلاغ من هيمن الأمر بأنها صاحب السمو ومخي غير كاهن بواقع مر فتارة يخلل من شخصي وأخرى يمجد للغير استحالة
Et nous venons d'entendre notre deuxième morceau de la soirée, morceau de Dinar Abdel-Wahed qui s'appelle Complain. Nous sommes toujours en compagnie de Aurélie Luchère pour parler de sa pièce Les Corps Incorruptibles, je rappelle, jusqu'au 15 novembre au Théâtre de la Bastille.
On est en train de parler des cafés mortels et donc vous avez aussi organisé une petite fête quand on a vu la pièce samedi au Théâtre de la Bastille. Vous voulez ajouter des choses sur les cafés mortels?
C'est les cafés mortels, j'en ai fait trois, la Comédie de Clermont-Ferrand avec donc Magali Molinier qui est chercheuse et professeure à Paris 8, spécialiste des relations entre les morts et les vivants, sur la question des rituels. On en a organisé un avec Laurence Loutre-Barbier qui est directrice d'une maison d'édition, les éditions Phage, et d'une boîte de pompes funèbres à Lyon, qui est vraiment une punk du funéraire assez géniale. Et avec Hélène Chaudeau, qui est consultante funéraire et qui travaille beaucoup sur aussi les sépultures, le lien au cimetière et le réensauvagement de ces lieux. Et la fête qu'on a fait donc le samedi 8 novembre à la Bastille, il y avait Laurence Loutre-Barbier qui était là, Magali Molinier, et aussi le collectif pour la sécurité sociale de la mort. Et le but des cafés mortels, c'est que les gens puissent parler de la mort. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, enfin, ce que je fais en tout cas avec les gens avec qui j'organise les cafés, c'est qu'on invite des gens dont c'est le métier ou qui pensent la mort pour pouvoir aussi avoir un écho avec les questions des gens et pour pouvoir aller un peu plus loin. Voilà, donc je m'entoure de ces personnes formidables.
Mais donc la fête était marrante?
La fête était très très chouette.
On a tout raté, Guigui.
Vous avez tout raté.
On est passé à côté de tout.
Il y avait une piñata en tête de mort. On a tué le patriarcat. Non, vous avez raté beaucoup de choses. Il y avait une chorale féministe géniale qui s'appelle Cœur de Vénère, qui est à Montreuil, qui a chanté des chants de deuil, des chants liés à pour nous mortes. Voilà. Mais après, c'est pas grave. Vous avez certainement fait une très belle soirée aussi.
Oui. Non, c'était l'anniversaire de Julien. Joyeux anniversaire, Julien.
Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment, c'est pas seulement une pièce sur la mort. J'ai l'impression que c'est aussi une pièce sur l'amour, l'amour des vivants, bon, l'amour des morts qui sont partis, mais il y a l'amour des vivants. Il y a une vivante qui est très présente dans le spectacle. Alors, beaucoup par message qu'elle vous laisse, c'est votre maman.
C'est ça. Parce qu'en fait,
c'est pas une question, vous avez vu, mais je vous laisse vous dépatouiller.
Mais je me suis dit, c'est surtout qu'au moment où j'ai commencé à travailler sur ce projet, ça remonte à bien longtemps, mais quand j'ai commencé à ce qui devienne plus concret, je me suis dit, mais la personne dont je vais devoir m'occuper, c'est ma mère, je suis fille unique, ou dont si moi je décède, c'est elle qui va devoir s'occuper de moi. Donc en fait, c'est la première concernée par ces questions. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir cette trame dramaturgique aussi qui construise vraiment le projet.
Juste, je vais dire pourquoi c'est drôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous parlez, alors là pour le coup, de votre grand-mère et vous lui dites « Je t'aime fort, tu peux y aller, tu peux mourir ». J'imagine que maintenant, vous dites la même chose à votre mère, c'est ça?
J'espère pas. Non mais oui, après, je pense que par exemple, mon premier film que j'ai aimé, c'est La famille Adams. J'étais amoureuse de Angelica Houston. Voilà, donc je pense que j'ai un petit kink comme ça. Donc, voilà.
Mais vous faites des répètes avec votre mère pour savoir au cas où, enfin des mises en situation.
Et bah,
Elle a refusé de jouer dans la pièce.
Je lui ai surtout fait appeler des pompes funèbres pour avoir des informations. On a fait des petites mises en scène comme ça où je l'ai enregistrée. Et elle a appelé plein de pompes funèbres pour avoir des infos sur sa propre mort. Et vraiment, on a beaucoup rigolé.
Ah, moi, je voudrais terminer avec une dernière question. Très très courte. Donc, la scénographie sur scène, une partie est constituée par du papier. Et après, il y a cette transition entre la chambre froide et l'atelier des céramiques. Et j'ai une question. Cette terre qu'on voit sur scène, chaque soir, c'est la même ?
Oui, on s'est dit qu'on allait travailler sur la transformation des corps et surtout la transformation de notre scénographie et qu'elle ne soit pas trop polluante non plus. Donc, c'était important pour nous de travailler avec un matériel qui a du sens aussi, autant plastiquement que dans ce que ça raconte, symboliquement. Et l'argile nous paraissait quand même être un beau retour à ces questions-là, à la terre et à comment on se transforme.
Merci beaucoup Aurélia Louchard d'être
Merci.
Avec nous ce
Merci
soir.
Merci d'avoir été Merci. Avec nous ce soir. D'écouter le troisième morceau de la soirée Thanatotechno de l'artiste Drifting Dog et apparemment qui fait donc partie de votre travail Aurélie. Et maintenant c'est le temps des chroniques.
Aurélia.
Virgule pas virgule, donc ce soir on va donc vous parler de Superstructure de Hubert Colla et de, sur un texte de Sonia Chiambretto du 6 au 22 novembre au Théâtre des Amantiers, de Le papier peint jaune d'après Charlotte Perkins Gilman du 5 au 15 novembre au Théâtre Montfort, de La Luz de un Lago del Conde de Torrefiel du 4 au 16 novembre à l'Odéon et du Festival du Jamais Lu du 24 au 26 octobre au Théâtre Ouvert. Mais on commence par Superstructure. Alors, c'est moi qui m'y colle. Je suis allée voir la pièce Superstructure, donc dans la mise en scène et scénographie d'Hubert Colla au Théâtre Nanterre-Amandier. Nous étions donc en immersion au théâtre éphémère, réinvesti pour ce lancement de saison. La pièce mise en scène par Colla prend racine dans le texte « Gratte-ciel » de l'écrivain Sonia Chiambretto, et qui est par ailleurs auteur associé aux Amandiers depuis 2021. Petit rappel, avec « Gratte-ciel », Sonia Chiambretto propose une traversée kaléidoscopique de la violence et de la peur au cœur de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Il s'agit donc d'un récit choral qui fait entendre la désespérance et l'urgence de vivre de jeunesses algéroises invisibles. Récit qui est par ailleurs construit à partir de témoignages et de documents d'archives que Sonia Chiambretto a elle-même collectés. Sur scène, on retrouve donc sept jeunes comédiens qui nous font donc traverser de manière assez libre, par effet d'écho et de résonance, trois périodes clés de l'histoire contemporaine de l'Algérie. La guerre d'indépendance entre 57 et 62, la décennie noire, 91-2002, et le futur proche, celui d'une possible reconstruction. Mais s'engager dans un tel chemin mémoriel et historique ne fait pas théâtre, ou du moins n'est pas suffisant. Le projet est un sac de nœuds complet, s'habillant d'une parure inaccessible et prenant les apparats d'un théâtre documentaire de haute volée. Or ici, toutes ces intentions tombent à plat. On assiste à une démonstration / réhabilitation historique qui vire à l'abscon. Rien de ce qui fait théâtre ne m'est parvenu, ni le texte porté avec peine, ni l'ancrage profondément critique d'une lecture décolonisée. Pendant plus de deux heures, on se noie dans une langue pauvre en relief, faiblement guidée par une direction d'acteur qui semble inexistante. J'ai vu des corps ne sachant pas trop quoi faire d'eux-mêmes, dans un rapport très souvent trop frontal, s'adressant à nous sur un ton mi-revendicatif, mi-rémanent, parfois avec l'aide d'un micro, geste vu et re-revu d'un théâtre qui essaye de faire impact, mais qui se veut lassant. Les acteurs semblent presque livrés à eux-mêmes dans une écriture tout en strates qui, plutôt que de faire entendre les échos des luttes, nous perd dans un dédale sans matière ni accroche. Bon, arrêtons-nous là pour le texte. Je dois que confesser qu'à un moment donné, mon écoute est allée s'égarer sur d'autres rives. Mais s'il n'y a pas de voix, pas vraiment de corps, que reste-t-il ? Le regard ? Dans le montage HPI, à haut potentiel intellectuel de cette proposition, l'architecture visuelle de la création trouve sa genèse dans le plan obus, projet fantasmé mais jamais réalisé donc d'une refondation urbanistique de la ville d'Alger, par l'architecte Le Corbusier. C'est un projet à haute teneur colonialiste, s'il en est, hein, son énième essai de faire adopter son projet est finalement définitivement rejeté en 1942. Ainsi, la seule force de cet essai d'Hubert Collat réside dans l'exploitation de cette histoire architecturale qui prend la forme d'une installation scénographique habile et modulable dont s'emparent les comédiens et à laquelle ils donnent vie. Relier donc l'histoire du bâti, même si celui-ci n'a existé qu'à l'échelle de projet, avec l'histoire des hommes, est une entrée qui sauve en partie mon expérience de spectatrice. Cette mise en volume de l'espace est complétée par des vidéos de paysages et de visages qui nous plongent dans une traversée visuelle qui réussit à toucher juste. Je retiens la projection du début, au moment de l'entrée publique, qui nous invite à nous laisser transporter par la Méditerranée avec à l'horizon le port d'Alger, que l'on atteint progressivement dans une lente et patiente avancée. Cette entrée en matière poétique rend justice à une cité, à une histoire malmenée. Mais parfois, il vaut mieux donc faire silence que faire théâtre. Et toi, qu'en as-tu pensé, Thomas ?
Je suis pas très loin de ce que tu dis. La scénographie est magnifique, hein, c'est-à-dire que cet énorme écran et en même temps cette estrade miroir qui reflète. Moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très beau. En plus, cette avancée de la mer, j'ai pensé à en face de Marseille, c'est Alger en fait. Bon, pas exactement géographiquement, mais Marseille regarde Alger. Et donc, du coup, Marseille, c'est l'endroit où Hubert Collat travaille. Et ça m'a semblé assez, assez juste. Et puis, il y a eu cette entrée des comédiens que j'ai trouvé hyper cinématographique, hein, presque un western. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que le western, c'est quand même un truc de colon, justement, hein, le Far West. Et c'est les corps racisés. Donc, ça change. Et voilà. Et à partir du moment où ça a commencé à parler, ça a été très très dur parce que véritablement, le texte c'est très bavard, ça parle énormément. Et donc ça raconte des faits, mais au final ça raconte pas d'histoire. Ça serait du documentaire, mais finalement pas vraiment. Ça joue pas. Et puis il y a ce moment très étrange où il y a la bataille d'Alger qui est diffusée, le film. Et là, j'ai trouvé ça d'une cruauté hallucinante parce que dans le film, ça joue. Le film est en noir et blanc et le film joue. Et on voit des gens qui pleurent, il y a une tension, il se passe quelque chose. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait dans cette proposition comme une tentative de se saborder d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Hubert Colas n'y croit pas. C'est-à-dire qu'il donne pas du tout ses chances à ce projet-là. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que peut-être il questionne sa légitimité, finalement, à parler, lui, français, qui travaille à Alger, de parler de cette histoire qui, finalement, regarde beaucoup les Algériens eux-mêmes. Alors, bon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, j'en suis resté très, très distant, très, très loin, et j'ai trouvé ça un peu dommage, du coup, par rapport à une histoire qui, finalement, touche énormément la France.
Merci Thomas pour ce retour, et on va passer donc avec toi, Alice, si tu veux bien, avec le papier peint jaune. On t'écoute.
Alors, effectivement, je suis allée voir donc cette pièce au Montfort. C'est une pièce qui est issue d'une nouvelle qui s'appelle The Yellow Wallpaper, qui a été écrite en 1890 par Charlotte Perkins. Donc c'est une œuvre de la littérature fantastique américaine qui est plutôt classique, on va dire, et qui a été reconnue dans le milieu féministe. C'est l'histoire d'une femme qui fait une dépression post-partum, alors une situation que toutes les femmes sont susceptibles de connaître, tant soit peu qu'elle donne la vie. Au départ, la comédienne dresse un portrait de la femme dont elle va ensuite incarner le rôle sur scène. Je me demande alors si c'est une fiction, cette femme a-t-elle réellement existé? La comédienne Marie Kaufmann a les yeux pétillants. On pourrait penser qu'elle fait partie de l'équipe du Montfort parce qu'elle remercie au début en nommant le professionnel qui nous invite à éteindre nos portables, avant de prendre la parole, sans cesser de parler jusqu'à la fin de la pièce. Elle est seule sur scène, son histoire n'est pas drôle. Contrainte à une thérapie du repos préconisée par son mari médecin, il prend les décisions à sa place, pas de droit de visite, renoncer aux efforts physiques et intellectuels, alors que c'est une intellectuelle, une écrivaine, enfin une autrice. On rit jaune, comme le titre de la pièce, le papier peint jaune. Ce genre de thérapie est d'ailleurs couramment recommandé aux femmes un peu hors du commun de son époque. Ça se passe au 19e siècle. La science masculiniste relègue les femmes condamnées par la bonne société à faire tapisserie. J'en déduis que c'est cela le papier peint jaune. Ce qui est fou dans cette histoire, Jane se fond littéralement à la tapisserie et trouve son issue par ses visions incongrues. Jane puise ses ressources dans la folie de sa réalité. La mise en scène d'Alix Riemer épurée répond bien au récit dont la réalité est circonscrite par son mari. Le papier peint jaune n'est pas représenté. Juste une chaise sur laquelle la comédienne se raconte, évoque l'univers d'une séance d'analyse chez la psy. La comédienne nous regarde et se raconte avec précision. C'est nous, les psys, le public? C'est troublant. Je vous invite à aller découvrir cette pièce. Et je me demande
On va demander à Michel, qu'est-ce qu'il en a pensé?
Alors, moi aussi j'ai vu le papier peint jaune. En anglais, je trouve que ça sonne mieux. Hein. Yellow Paper Wall, on dirait carrément un titre d'une chanson des Beatles. Bon, blague à part, donc c'était vraiment très bien. C'est ce que je peux dire en premier lieu. Moi, j'ai vraiment bien aimé. L'histoire, là, on la connaît. Donc, je pourrais parler un peu plus de la mise en scène que j'ai trouvée aussi très, 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 très belle, une scénographie très réussie. Parce qu'un jeu de lumière qui accompagne vraiment l'évolution du personnage, que j'ai trouvé très efficace, très, très bonne. Alors évidemment, on ne peut pas passer sous silence le rôle donc, de celle qui fait la seule en scène, Marie Kaufmann. Donc je trouve qu'elle arrive très très bien ce tour de force à camper cette femme forte, qui est néanmoins soumise à son mari médecin, qui l'enferme donc dans cette chambre jaune, et donc qui entrevoit dans ce papier peint ce qui va finalement être son alter ego. Et donc pour ça, ce qui est important de comprendre pour imaginer la pièce, c'est que Marie Kaufmann doit d'une certaine manière déployer son personnage, le faire évoluer de ce personnage de femme un peu bourgeoise soumise à cette personne qui va devenir une démente. Mais consciente, c'est-à-dire que c'est cette démence d'une certaine manière qui lui permet donc d'accéder à la conscience de son état. Donc ça, c'est un tour de force quand même assez important, et j'ai trouvé que c'était réussi, même si, comme souvent, si je devais mettre un bémol, comme souvent dans les seules en scène, il y a un peu le risque de voir s'étaler la puissance du jeu de l'acteur, donc de l'actrice ici, ce qui est un peu le cas, parce que de fait, comme elle est très efficace et très puissante, et ben on a l'impression aussi quand même qu'on a vu un tour de force, quoi. Mais voilà, c'était très très bien, donc je conseille d'aller voir ça à tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup Michel et Alice pour ce retour et cette chronique. On t'écoute Thomas pour la chronique sur la Luz de un lago del Conde Tetorefiel que tu as vu à l'Odéon.
Eh oui. Y a une hésitation d'emblée, une hésitation à considérer ce spectacle comme un geste radical et poétique, totalement abouti, ou à le ranger parmi les propositions oubliables. Le propos est plutôt engageant, hein. Ce serait une pièce sur l'amour, avec des histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, un peu comme des matrioshkas, ou plutôt à la manière des heures de Michael Cunningham. On avait adoré ce roman, hein. Aucune raison de ne pas aimer un spectacle qui en reprend le principe narratif. Ensuite, on nous propose de prendre place sur la scène de l'Odéon, on dit banco. C'est pas tous les jours qu'on nous propose pareille opportunité, hein. Fouler la scène d'un théâtre mythique, moi je dis oui. Mais ensuite, tout devient plus compliqué, car en fait, il s'agit d'un film auquel on va assister. C'est pas vraiment un spectacle. Il y a bien trois machinistes qui déplacent et déplacent des écrans par avant, qui se tiennent devant nous, lunettes de soleil sur les yeux, mimant fumer une cigarette. Habillés en Adidas, ils ne feront pas grand-chose de plus. Ah si, peindre méticuleusement et surtout de façon très monotone, pas du tout spectaculaire, au rouleau, une palissade. Alors oui, il y a des écrans, mais à part quelques images très pixelisées, des effets delay tirés de la suite Adobe, ce qu'il y a à voir, ce sont juste des mots. Un spectacle à lire, il y a beaucoup à lire, hein, et pas vraiment de choix esthétique ici encore. Une typographie sans âme, sans traits, rien de bien folichon. Alors oui, parfois le fond est rouge, oulala, ça ne souffre pas la comparaison avec ce qui se fait aujourd'hui en matière de vidjing. La langue alors, eh ben pareil, le style est pauvre. Il n'y en a pas à vrai dire. Hein. Chez Duras aussi, au moins, la seconde Duras, il y a cette pauvreté dans le style. Mais là, c'est un minimalisme assumé. Magnifique. Ici, dans ce spectacle-là, ici, tout sonne place, en relief, sans humour même. Avec des idées un peu faciles, des définitions convenues. Lorsque, par exemple, le texte décide de décrire la techno. Pardon, alors même qu'il parlait de jungle, lorsqu'il évoque qu'il faudrait que le sexe et la mort soient réunis pour faire œuvre, alors qu'on est à ce moment-là de l'histoire en 95 et qu'une pandémie réunit déjà sexe et mort, en fait tout cela est très daté. Massive Attack, R pour la BO de Virgin Suicide, une surface de mur à la Cronenberg, l'esthétique VHS. Certaines histoires font apparaître des personnages gays, puis trans, mais on a le sentiment que ce serait pour cocher la case queer du spectacle. Surtout, il y a cette fin en forme d'anticipation qui imagine que le spectacle vivant sera écrit en 2036 par des IA, alors même que depuis le début du spectacle, on se demande si ce n'est pas déjà le cas ici. Mais reste incarné, hein, interprété par des êtres humains, alors même que selon toute vraisemblance, c'est l'écran qui risque de remplacer le spectacle vivant. L'image est drôle, celle d'un groupe d'artistes terroristes qui viendrait sur scène dénoncer le culte du spectacle. Waouh ! Ce spectacle devant lequel on fait waouh à cause des effets qu'il mobilise, un spectacle éjaculateur précoce. Et là, les artistes manifestants se mettent à jeter de la merde sur un spectateur. C'est ce qu'on nous raconte, hein, rassurez-vous. Les machinistes ne font que balancer de la terre, non pas sur nous, mais sur une surface métallique. Rien de grave, pas d'odeur. Mais on se demande si finalement le spectacle ne fait pas ici ce qu'il prétend dénoncer, un effet waouh, recyclant en beaucoup moins bien un topos déjà vu par exemple dans Sur le concept du visage de Dieu de Castellucci, avec qui justement Tania Beyeler, l'une des protagonistes qui a fait le spectacle, a travaillé. Alors c'est peut-être dans cette hésitation que la Luz de un lago trouve sa force. Cette déception tenue, cette pauvreté assumée renvoie au spectateur sa propre dépendance au spectaculaire. La pièce ne réussit pas vraiment, mais elle ose un geste rare, un théâtre qui n'offre presque rien pour mieux questionner ce que nous exigeons de lui. Et c'est peut-être pour cela qu'il faut y aller, non pour ses réussites, mais pour son entêtement raté. Autrement, certaines échardes travaillent plus longtemps que les chefs-d'œuvre.
Eh bien, waouh, merci beaucoup Thomas pour cette dernière chronique. On t'écoute Camilla et on termine avec le festival du Jamais Lu.
Alors, les festivals de Jamais Lu, il est déjà passé, mais je voulais absolument vous en parler parce que c'est un des festivals que je préfère à Paris chaque année. Et en octobre, là, ça fait 10 ans que les festivals de Jamais Lu entrouvrent la porte du futur et nous soufflent des textes encore tièdes d'écriture. Cette édition s'installe, comme d'habitude, à Théâtre Vert. 3 jours pour écouter des voix, des mises en jeu sans après. On passe au micro, du micro à la pensée, comme un peu dans les mêmes mouvements de la, comme quand la pensée surgit. Voilà. Ici, les théâtres se fabriquent devant nous. On voit des pages, franchement, on entend des pages franchement imprimées, des interprètes en éveil. Les paris sont simples et risqués, capter l'instant où la dramaturgie se cherche et le partager. Donc cette année, Marcel Dubois cède la co-direction à Éric Noël, qui continue cette aventure incroyable avec Marc-Antoine Cyr. Donc, merci Marcel Dubois pour toutes ces années. Et donc, on a vu cette édition, on l'a vue à 4 avec Guigui. Donc, Guigui, nous, on est allés ensemble voir 20 jours plus tard. Est-ce que tu veux commencer ?
Mais on n'était que deux, non ? Enfin, enfin bon.
Vas-y,
on
commence.
On était à 4. Bon,
quatre yeux.
Quatre yeux, bah oui, c'est ça.
Pardon ?
Non, tu dis qu'on l'a vu à 4.
Allez, Guigui, on est parti.
Oui, parce qu'ils ont vu notre spectacle, les autres, Julien et Alice.
Je ne savais pas. Excusez-moi à présent, madame la présentatrice. Donc oui, 28 jours plus tard, bah, ça nous plonge dans le monde de l'hôpital, quoi, dans les services d'urgence. Donc c'est absolument catastrophique. Ils sont débordés, évidemment, enfin, comme on le sait, mais c'est dramatique à voir. Ils sont en grève, mais ils continuent à travailler. Ils n'en peuvent plus à force de coupes budgétaires. Et donc, il se passe un truc dans leur... leur truc d'urgence, c'est qu'il y a des gens qui petit à petit craquent et se mettent à danser. Donc ils ne comprennent pas pourquoi. Et les gens se mettent de plus en plus à danser. Et c'est le bordel et on perd le contrôle. Donc la pièce est super rigolote. Donc, moi je ne m'y attendais pas, je ne savais pas ce que j'allais voir. Donc c'était effectivement une lecture. Donc y a ça a été préparé en 12 heures. Donc c'est assez excellent. J'ai pas dit les noms, donc c'est un texte de Béatrice Bienville et une mise en voix d'Anne-Marie Olivier. Et donc il y a une dizaine d'acteurs qui lisent sur scène. Et donc j'ai hâte que ce soit monté et voilà, qu'on voit ça quoi. Je sais pas, t'en as pensé quoi ? T'étais sortie contente aussi ?
Oui. Moi j'ai trouvé passionnant le fait de voir les quotidiens des urgences dans l'hôpital français, avec tous leurs galères, les temps serrés, les problèmes de manque de personnel. Donc on voit un peu comment ces gens arrivent encore à tenir l'hôpital debout. Par contre, je n'ai pas du tout accroché, à partir du moment où il y a cette maladie qui s'installe à l'hôpital, je ne comprenais pas ce qu'on allait voir encore. Et à un certain moment, pour moi, c'était devenu un peu long. Voilà. Mais le début était très très bien. J'ai bien aimé.
Bon,
pas trop la fin. Voilà, mais on laisse la parole à Julien Alice qui a vu un autre spectacle du Festival du Jamais Lu.
Alors déjà pour le titre, je vais te demander de t'en occuper Camilla.
Oui, donc c'est La Città degli Elefanti.
Merci. De Marco Carafa. Lecture à 6 voix, entre Paris et Catane. Paris où vit le personnage de Césaré, Catane où il est né, et on est à Catane où il... est confronté à cette famille, à cet héritage, à cette pesanteur qu'il a envie de retrouver, mais qu'il vit comme comme un poids, comme un boulet. Alors cette famille, elle est conservatrice jusqu'à l'excès. Ce père, qui est une incarnation du patriarcat, sa mère et sa tante, qui sont des femmes qui n'ont pas comme espace d'existence que ce que le père leur laisse être. Et en même temps, il y a tellement d'amour, tellement de vie. On comprend mieux cette déchirure qui est la sienne entre Paris où il est, où il peut être, Catane où il ment, Catane où il invente une vie pour faire plaisir à son père, pour faire plaisir à tout le monde. On a envie vraiment de voir ça jouer parce que rien que là, en voix, donc mise en voix par... Elkana Talbi, c'était superbe, ça donnait vraiment envie. Il y avait le texte déjà est très riche, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Oui, montez-le vite.
Oui, c'est vrai que c'était une lecture qui était très vivante. Moi, habituellement, c'est vrai que les lectures, je trouve que c'est pas évident à entendre. Mais là, c'était incarné, rythmé. La mise en scène, alors il y avait quand même une mise en scène, était ingénieuse. Où les comment ça s'appelle, les panneaux pour lire là.
Les pupitres.
Les pupitres, voilà, se transformaient en table quand il y avait l'espace pour manger. Enfin, c'était bien vu. Et effectivement, je me rends compte que les deux pièces de théâtre que j'ai vues, les héros, entre guillemets, les personnages principaux, sont des écrivains. Et j'ai bien l'impression que pour se sortir d'affaires, il faut avoir beaucoup d'imagination dans cette société où le patriarcat l'emporte. J'en ai bien l'impression. En tout cas, allez-y, c'est un théâtre que j'ai découvert et qui est vraiment très intéressant.
Bien, merci beaucoup Alice, merci Julien, merci Camilla et merci Guigui pour ce festival du Jamais Lu. Donc ce soir, on vous a également parlé de Superstructure de Hubert Colla et sur un texte de Sonia Chiambretto du 6 au 22 novembre au Théâtre des Amandiers. Également du Papier peint jaune d'après Charlotte Perkins-Gilman du 5 au 15 novembre au Théâtre Montfort. De La Luz de un Lago del Conde de Torrefiel du 4 au 16 novembre au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Et du Festival du Jamais Lu du 24 au 26 octobre au Théâtre Ouvert. En invité, nous avons reçu Aurélia Luchère pour parler de son incroyable pièce Les Corps Incorruptibles jusqu'au 15 novembre au Théâtre de la Bastille. Allez-y, courez-y. Et cette émission a été présentée par Hélène Belvert, préparée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Alice Valla, Hélène Belvert, Thomas Adam-Garnin, Julien Hante, Michel Carton et réalisée par Guigui. Nous vous attendons tous et toutes le lundi 8 décembre à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à tous, merci. Bisous.
Ciao.